Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciates et bienvenue dans votre émission Page à Page, où nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je reçois Philippe Ségur, bonjour.
Bonjour.
Voilà, pour son dernier livre qui s'intitule « Vacances au pays perdu » aux éditions Buchet-Chastel. On en parlera dans un instant après quelques infos comme à l'accoutumée. Alors, pour vous rappeler que demain, vendredi 21 novembre à 17h30, au forum de la FNAC Place Wilson, vous pourrez rencontrer l'auteur Bernard Werber pour son recueil de nouvelles « Paradis sur mesure » aux éditions Albin Michel, « L'avenir de l'homme, de la planète », l'inconscience de notre monde, tous ces sujets qui l'affectionnent se retrouvent au gré de ces nouvelles dont chacune nous offre un questionnement. Alors l'entrée est libre, n'hésitez pas à y aller pour rencontrer Bernard Werber. Ensuite, ce week-end à Colomiers, le 21, 22 et 23 novembre, a lieu le 22e festival de la bande dessinée. Alors, de nombreux auteurs seront présents, des ateliers, des conférences, des spectacles, des expositions pour petits et grands. Alors venez nombreux et venez à la rencontre des auteurs de vos héros. Ensuite, mardi 25 novembre, ah non, j'ai oublié dimanche, je fais dans l'ordre du calendrier et le dimanche, ah, il est là. Alors, dimanche 23 novembre, de 10h à 17h, vous avez un atelier d'écriture proposé par Hélène Dufaux à l'école Ayamé, 20 rue Figeac à Toulouse, c'est dans le quartier des Minimes, le métro Barrière de Paris. Hélène Dufaux qui est auteure toulousaine d'ailleurs. Alors le thème sera dévoilé au cours de l'atelier, les places sont limitées, donc n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant, avant bien sûr, avant dimanche, hein, s'il reste des places. Les réservations sont à faire au 09 54 42 63 49 ou au 06 78 22 02 99. Ce sont les numéros d'Hélène Dufaux qui anime cet atelier, qui l'organise. Il y en a un par mois en général. Ensuite, mardi 25, eh bien j'y arrive, au mardi 25, à 17h30 au forum de la FNAC encore, Place Wilson à Toulouse, une rencontre avec Fatou Diomé, qui est autour de son dernier livre qui s'appelle « Inassouvi nos vies » aux éditions Flammarion. Alors dans ce livre, c'est l'histoire de Betty qui passe son temps à observer les locataires de l'immeuble d'en face. Elle se focalise un jour sur une vieille dame qui s'appelle Félicité et dont elle se prend d'affection. Et lorsque celle-ci est envoyée dans une maison de retraite, Betty est bouleversée. Donc n'hésitez pas à venir rencontrer cet auteur, Fatou Diomé, et son livre à la FNAC mardi 25 à 17h30. Et puis je termine les infos avec jeudi 27 novembre à 18h à la médiathèque José Cabanis de Toulouse, au grand auditorium au Red Jardin. Une rencontre débat sur le thème « Quoi de neuf dans le roman français ?» avec Bernard Comment, qui est auteur, traducteur, scénariste et qui dirige également la collection, une collection au Seuil, et avec Dominique Viard, qui est professeur de littérature moderne et contemporaine à l'Université de Lille et qui est également directeur de collection, mais aux éditions Bordas.
Page à page, Claire Ambille.
Et maintenant, je me tourne vers mon invité, donc Philippe Ségur, auteur de son septième ouvrage, hein, « Vacances au pays perdu » aux éditions Buchet-Chastel. Alors Philippe Ségur, vous êtes toulousain ?
Oui, je vis dans la banlieue, la grande banlieue toulousaine, une quarantaine de kilomètres. Mais enfin, j'ai vécu toute mon enfance, mon adolescence et les jeunes années à Toulouse. Voilà.
Dans la ville rose. Vous êtes professeur d'université en droit constitutionnel à l'université de Perpignan.
Oui.
Alors, quand on voit voilà septième roman, on se dit alors voilà, on peut faire du droit, quelque chose de très précis. Ça fait sérieux le droit. Enfin, ça fait un peu. Et puis à côté de ça, vous écrivez. Vous avez d'ailleurs un style très très percutant, très à vous, je dirais, très humoristique dans le sens d'irrision un peu. Et alors, comment on passe de professeur d'université en droit constitutionnel à auteur?
En fait, on ne passe pas, en tout cas en ce qui me concerne.
Enfin, oui, on est les deux, on est les deux. Voilà,
de la position du juriste, de l'enseignant en droit à celle de l'auteur. C'est plutôt l'inverse en réalité, hein, parce que J'ai d'abord eu une vocation précoce d'auteur, enfin voilà, de
vous avez toujours écrit des choses.
Désir de raconter des histoires qui est né très jeune. J'étais enfant, pratiquement. Ça s'est produit dès que j'ai su tenir un stylo. Hein. Le chemin était long avant de pouvoir publier, et donc entre temps, je suis devenu universitaire. Mais voilà, la priorité, c'était l'écriture dans ma vie. Alors évidemment,
Vous avez choisi le droit. Vous n'avez pas choisi d'être professeur de littérature moderne ou contemporaine. Vous avez choisi le droit.
Alors, je n'ai pas choisi le droit parce que tout ça. Enfin, j'ai choisi le droit. Non, je n'ai pas choisi les lettres, alors qu'on m'y encourageait un petit peu à la sortie du lycée en particulier, pour une raison simple. Et c'est quelque chose que je pense aujourd'hui très fort encore, c'est que je ne pouvais pas envisager qu'on me dicte mes lectures. Donc ni une classe prépa, ni la fac des lettres n'était envisageable pour moi, parce que la lecture pour moi c'est vraiment un acte de liberté.
Tout à fait.
Donc je ne pouvais pas envisager cette hypothèse, ce cheminement-là, même si aujourd'hui c'est vrai que je me dis que ça doit être quand même assez sympathique d'enseigner les auteurs qu'on aime, de pouvoir faire partager ses goûts dans le cadre universitaire. Mais enfin, je me sens bien aussi en droit avec mes étudiants dans un domaine, la politique, le droit constitutionnel, qui me plaît aussi beaucoup.
Et qu'est-ce qu'ils ont dit, justement, vos élèves, vos étudiants, de voir que leur professeur est auteur également?
C'est très curieux parce que moi j'observe maintenant, avec un peu de recul, quelques années, que ça a incontestablement changé le rapport avec les étudiants. Il y a un rapprochement qui se fait. Ils voient que le prof qui apparaît comme ça dans un amphithéâtre à la chaire est finalement un peu plus proche d'eux qu'ils pouvaient ne le penser, parce que à travers les histoires, évidemment, ils se découvrent parfois des affinités. Donc ça aide, évidemment, hein, ils viennent me parler, mais en même temps il y a une certaine pudeur, c'est-à-dire que ils viennent rarement avant la fin des examens me parler de mes livres, craignant sans doute d'être soupçonné
de flagornerie.
Donc voilà, ça reste c'est très bien, c'est un rapport que j'aime beaucoup. Sur ce plan-là, disons, on en discute après, mais je suis moi-même attentif à ne pas mélanger les genres, donc je parle pas de mes romans ou de littérature ou quoi que ce soit dans le cadre de mes cours. Ils respectent ça également, mais ça n'empêche pas ensuite un rapprochement.
D'en parler, vous restez quand même le professeur de droit constitutionnel.
Je pense que c'est mon rôle, c'est ce qu'ils attendent aussi.
Important.
Hein.
Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, on parlait de vos livres. Alors, donc, c'est le 7e, Vacances au pays perdu. Vous avez écrit, donc, 5 autres romans et un recueil de poésie édité chez NEB à Toulouse, chez notre ami Jean-Luc Haribaud, qui s'appelle Messal, hein, le recueil de poésie. Et puis, alors, vos autres romans ont des titres assez percutants et pleins d'humour. On a, par exemple, Métaphysique du chien. On a Autoportrait à l'ouvre-boîte, Poétique de l'égorgeur, Seulement l'amour, et puis l'avant-dernier, Écrivain en 10 leçons, où vous racontez un peu d'ailleurs le parcours du combattant.
Oui, ce sont toutes les premières fois en écriture. Hein.
Voilà, toutes les premières fois en écriture.
Le premier manuscrit, la première rencontre avec l'éditeur, avec les journalistes,
etc. La première télé, etc. Donc, un peu, mais on y voit un peu quand même le parcours du combattant qui doit être quand même celui de quelqu'un qui veut se faire publier un jour ou l'autre.
Ah oui, mais parce qu'il y a aujourd'hui, enfin comme toujours, hein, mais enfin peut-être c'est plus marqué à l'heure actuelle, un véritable parcours initiatique en fait, hein, aussi bien pour arriver à se faire accepter par un éditeur, c'est parfois un chemin périlleux et éprouvant, qu'après. Parce qu'après, ça commence en réalité. Hein.
Donc, ça commence après.
Voilà, les salons du livre. Enfin, il y a toute une. Moi, ce sont des choses que j'ignorais complètement. Hein. J'ai vraiment découvert un univers que je ne connaissais pas. J'étais très ignorant de ce milieu de l'édition, très naïf. Ça aurait pu me coûter cher. Il a fallu un peu de chance à un moment donné pour être publié aussi, parce que je ne savais absolument pas comment ça fonctionnait. Et mon premier roman, qui était parti par la poste, a bien failli être refusé partout. Hein. J'ai essuyé 17 refus avant que le seul éditeur à qui je ne l'avais pas envoyé, finalement, l'accepte.
Ah, ça, c'est incroyable. Alors, vous ne lui avez pas envoyé, il a quand même eu vent de cette
Oui, parce que je l'avais envoyé au Rocher, qui ne m'avait pas répondu. Et la directrice littéraire du Rocher était en train de partir pour Buchet-Chastel, qui était une maison sur le point de renaître de ses cendres. Et donc, je connaissais historiquement, mais que dont je ne connaissais pas l'actualité, pour cause, il n'y en avait pas. Et donc elle m'a téléphoné en me disant « Bon, vous ne savez sûrement pas qui je suis, vous ne savez que Buchet-Chastel va bientôt republier dans le domaine français. » Et voilà comment ça s'est passé. Donc il a fallu, après bien des difficultés, hein, des années et des années de recherche, hein, il a fallu un petit coup de pouce du destin, quoi.
Et vous êtes fidèle donc à Buchet-Chastel depuis ce premier roman donc qui n'avait pas été envoyé à Buchet-Chastel, mais donc depuis vous avez publié tous les autres chez Buchet-Chastel.
Oui, parce que j'étais très bien accueilli. Puis c'est une maison qui a une politique d'auteur qui veille vraiment sur l'équipe. Les relations ne sont pas du tout anonymes. Hein, on connaît vraiment bien.
On n'a pas l'impression d'être un produit. Produit.
C'est le moins qu'on puisse dire.
C'est important ça. Ouais. Alors, ce dernier livre, Vacances au pays perdu, vacances au singulier, on va en parler tout à l'heure. Pourquoi ce singulier, au pays perdu, pourquoi perdu? Voilà, alors ça se passe en Albanie, il faut quand même le dire. Puis il y a donc une petite anecdote, c'est pas une anecdote, c'est pourquoi ce livre est né. Au départ, il devait s'agir d'un autre livre, et puis finalement, oui. Vous avez été en Albanie. Vous avez été dans ce petit pays il faut souligner quand même que l'Albanie a longtemps été le dernier pays stalinien d'Europe.
Oui. Je vais dire un petit mot là-dessus. Je suis parti en Albanie parce que j'avais en projet un roman qui n'a pas été écrit, qui ne le sera pas maintenant, qui devait avoir en toile de fond les questions de grande criminalité transeuropéenne, donc avec les Balkans comme cadre géographique. J'ignorais tout de cette région du monde. La documentation était assez rare. Je n'imaginais pas les habitants, les villes, les paysages. Donc je me suis dit, il faut que j'y aille. Et quand j'ai préparé ce voyage, autour de moi, les réactions étaient plus que mitigées. En réalité, c'était des réactions de consternation, d'inquiétude, parfois de pitié. Quoi, tu vas passer tes vacances.
C'est pas un lieu touristique.
Voilà, tu vas passer tes vacances en Albanie. Mais enfin, c'est invraisemblable. C'est bon. Et j'avais consulté le site du ministère des Affaires étrangères, les conseils aux voyageurs, qui recommandaient précisément de ne pas y aller sans être accueilli sur place.
Oui, sans connaître personne.
Voilà, en précisant que deux régions du pays étaient hors de contrôle du gouvernement. C'était vraiment un endroit réputé dangereux. Bon, ça m'a un petit peu inquiété, mais finalement, je me suis dit non, je vais y aller quand même. Et puis j'ai trouvé tout autre chose en réalité. Donc, un pays en grande difficulté économique, mais une population très accueillante.
Très hospitalière.
Et très hospitalière, oui. Et quand j'ai vu, finalement, sur place, ce qui se passait, je me suis dit que j'avais là le cadre de notre roman que j'avais également dans mes tiroirs, dont j'avais le projet dans mes tiroirs depuis longtemps. Et finalement, j'ai basculé dans quelque chose de tout à fait différent.
C'est un peu un livre hommage, alors, on peut dire, à l'Albanie.
Non, ça, je sais pas si on peut dire ça.
Enfin, vous avez vécu, ce que vous avez rencontré là-bas, en Albanie?
Non, je pense que si je voulais rendre hommage aux Albanais, ça mériterait autre
à
chose. Parce que les deux personnages qui racontent leur périple sont des personnages qui ne sont pas capables, précisément, d'entrer en contact avec la population albanaise, parce qu'ils partent avec leurs problèmes, leurs visions d'occidentaux. Donc, ils ont une attitude qui n'est pas du tout celle de voyageurs ouverts, mais parce qu'ils sont en souffrance eux-mêmes. Donc, je me reconnais pas dans ces personnages, mais ils ont leur psychologie à eux. Donc, c'est pas vraiment un livre qui rend hommage à l'Albanie. Il faut pas le prendre comme ça. C'est plutôt un livre qui pose le problème de l'occidental en vacances, quoi, dans un pays
où vous avez noté d'ailleurs aussi que malgré tout ce qu'on dit et les stéréotypes qui sont par rapport à ça, à ce pays, qu'il y a pas beaucoup de, enfin que la police est fort discrète.
Ah oui.
Il n'y a pas une milice
oui, c'est très frappant.
Énorme, oui. Voilà, ça vous a frappé ça aussi. Hein.
Très peu de présence policière, militaire n'en parlons pas, hein, mais très peu, très très peu de présence policière, y compris devant les bâtiments publics, les ministères entre autres. Et donc un climat de quiétude qui ne ressemble pas du tout à celui dans lequel nous vivons. En Europe et en France en particulier, où il y a vraiment un sentiment de peur hein, dans tous les lieux publics qui a tendance à se développer, surtout dans les grandes villes. C'est pas du tout le cas en Albanie. De même que la cohabitation entre les communautés religieuses,
c'est très
frappant.
C'est très libre et très tolérant.
Très tolérant,
en fait,
très tolérant. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ce pays.
Très libre, oui. Avec un respect mutuel des traditions. Une tradition aussi de l'ancien, enfin par rapport au modernisme.
Oui,
traditions qui sont conservées.
Oui. Alors le modernisme, la difficulté, c'est que pour ce pays, c'est que les moyens ne suivent pas.
Hein, voilà, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas d'essence. Donc pour les moyens de locomotion, c'est difficile. Les routes, elles sont complètement inexistantes, voire complètement abîmées. Enfin abîmées, pas du tout.
Il y a très peu d'infrastructures. Il y a une autoroute, c'est un grand mot, une quatre voies qui relie la capitale à la côte. Et ensuite, les routes sont dans un état qui ne permet pas de voyager facilement. Donc, il faut être prêt à se déplacer dans des conditions très très difficiles quand on y va. Mais bon, ça fait partie de la règle du jeu. Hein.
Oui, disons qu'on ne va pas en Albanie en croyant aller aux Bahamas.
Bien sûr.
Voilà.
Bien sûr. c'est ce que cherchent ces deux personnages,
oui,
dans le livre.
Oui, on va.
Mais
une
fois confrontés à la réalité, ils ne sont pas capables de l'assumer.
De l'assumer.
Alors, c'est prétexte à une série de situations.
De s'ouvrir à ça et de s'adapter, voilà. Finalement. Et aussi, ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'apparemment la culture française est très présente en Albanie. Elle est très bien accueillie, elle est très bien conservée. Enfin,
oui. Alors ça, c'est une surprise.
Parce que
nous ignorons tout de l'Albanie,
presque
tout.
Oui.
C'est-à-dire qu'on part là-bas vraiment sans avoir de représentation, et on s'aperçoit, que les Albanais, l'homme de la rue, hein, je ne parle pas simplement des gens qui ont pu voyager un peu, ou des érudits, ou des gens cultivés. Non, ils connaissent la France, ils connaissent la culture française, les peintres français, parfois même les grands auteurs français. Alors, malgré les difficultés de communication, on arrive malgré tout à échanger un petit peu. Ça fait chaud au cœur, hein, parce que je crois que la France, dans le reste du monde, souvent n'a pas cette aura, ou elle l'a perdue en tout cas souvent.
Oui, tout à fait.
Et donc ça aussi, c'est très très frappant.
Et donc on pourrait dire l'Albanie, c'est une société, un pays où l'être l'emporte sur l'avoir.
Oui, exactement.
C'est
le propre des sociétés traditionnelles, hein, dans lesquelles ces valeurs-là ont survécu à la modernité. Alors j'espère qu'elles tiendront encore longtemps chez eux.
Alors on va parler plus précisément donc du roman en lui-même. Donc c'est un roman, moi j'ai beaucoup aimé, hein, bien sûr, comme l'avant-dernier que j'avais aussi lu, écrivain en 10 leçons, et puis ainsi que les poèmes qui sont tout à fait dans un autre registre. Mais donc c'est un roman doux, amer, un peu au style, moi j'ai trouvé plein d'humour, mais de dérision, hein, aussi. Alors on sourit beaucoup, mais bon, ça fait un peu sourire, c'est un peu un humour grinçant, quoi. C'est un humour, c'est votre style, hein, Philippe Séguir. On se moque un peu, hein, en fait, de ces deux personnages. Donc le personnage principal, c'est un graphiste spécialisé dans les emballages de produits alimentaires. Il est végétarien, et puis un jour il s'aperçoit que les produits dont il fait les emballages sont bourrés de pesticides, d'antibiotiques, d'hormones de croissance, etc. Et donc il a envie de rompre avec le système et la société de consommation. Il est un peu dépassé aussi par sa vie quotidienne avec une femme en apparence très cool, mais bon, je sais pas. Et puis des enfants assez despotiques, je trouve, les enfants.
Les enfants tyranniques, oui.
Tyranniques, voilà.
Les adeptes de la surconsommation.
Oui. Avec les marques. Il leur faut des sacs de telle marque, les chocolats de telle marque, les DVD, les machins. Enfin, c'est vraiment de la surconsommation. Et donc, il a envie de balayer tout ça, d'aller faire un séjour en Albanie, donc justement, avec son meilleur ami, Cricri. Le fameux Cricri. Donc, en fait, ce sont les deux personnages clés du roman. Et donc, ils vont arriver en Albanie. Et après, donc, ce sont les pèlerinations, je vais y arriver, de ces deux hommes, donc, dans ce pays, comme vous l'avez dit, pauvre, mais plein de richesses humaines. Et finalement, ils n'arrivent pas tellement à trouver, ils n'arrivent pas du tout même à trouver leur place.
Il n'y arrive pas parce que, donc, comme vous l'avez dit, hein, ils partent pour rompre avec le système, celui de la consommation, mais ils sont structurés par cette société, en
oui,
fait,
ils
comme
sont
nous
modelés,
le sommes
ils sont,
tous
voilà,
plus ou
oui,
moins,
on
plus
l'est
ou moins,
tous,
bien
oui.
sûr, mais psychologiquement, nous sommes les produits nous-mêmes, hein, de ce système-là. Donc, une fois sur place, ils s'aperçoivent qu'ils sont partis avec leur désir de consommateur, leur crainte, toutes ces peurs que ce monde sécuritaire de la consommation, et tout ce besoin de confort aussi, hein, que cette société insinue en nous. Et finalement, ils sont plus capables de s'adapter vraiment à des conditions de voyage vraiment aventureuses, quoi.
Donc, perdu au pays perdu, c'est un peu le personnage qui est perdu dans sa vie du côté ouest, et puis dans sa vie aussi, le séjour qu'il va faire côté est.
Voilà, c'est un personnage qui est divisé entre deux mondes, en fait,
oui.
Qui ne trouve sa place nulle part.
La dualité, c'est important chez vous, Philippe Séguir ?
Oui, la dualité, c'est important, mais je crois que le monde matériel, le monde tout court, c'est un monde de dualité. Tout est dualité. Hein. Notre expérience du monde se construit en termes de paires d'opposés, hein, le plaisir, la douleur, le bien et le mal, le chaud et le froid, etc. etc. Donc toute notre perception du monde, elle est duelle. Hein, bon. Et en même temps, chacun porte en lui une sorte de nostalgie, alors illusoire peut-être, de l'unité, du retour à l'unité. Alors les psychanalystes ont des choses à dire à ce sujet. Hein. Mais bon, je trouve ça intéressant parce que ça donne lieu à toute une série d'illusions selon les personnalités, hein, d'illusions, de chemins de vie très différents, sous le prétexte plus ou moins clair de ce retour à l'unité. Alors ça peut être la recherche de l'amour fou, ça peut être la recherche d'un accomplissement dans une carrière, c'est cette volonté de s'unifier à nouveau avec son environnement. Et donc moi j'aime bien les personnages qui sont en conflit, qui sont en porte-à-faux dans leur milieu professionnel, dans leur vie de famille, etc. Parce que bon, je crois que c'est assez répandu. Des gens qui sont pas bien, qui n'aiment pas leur métier, qui ont envie de faire autre chose. Je me suis aperçu que depuis que je parle de ce livre, que pour beaucoup, l'idée de rompre avec peut-être pas le système, enfin rompre avec leur vie, rompre avec la société telle qu'elle est.
Ça leur est revenu à l'idée.
Ça vient très souvent. Voilà. Donc
il y en a qui le font.
Et certains
pendant
le font.
Un temps, quelques mois.
Oui.
Par an.
Par an, voilà. Oui, c'est l'inversion du camping, par exemple, les rites d'inversion.
Ou qui font des voyages lointains à l'autre bout de la planète pour rompre avec leur quotidien trop difficile.
J'aime beaucoup aussi les personnages qui ont eu des grandes ruptures dans leur vie. Je suis par exemple assez fasciné par Henri de Montfred, un homme qui a 30 ans, après avoir mené une vie un peu compliquée, échoué dans plusieurs entreprises, part en Éthiopie, devient contrebandier, puis après se met à écrire des romans qui ont un grand succès. Hermann Hesse, pareil, 40 ans, 42 ans, il change complètement de vie après une vie d'écrivain bourgeois, comme il l'avait dit, ayant bien réussi, gagnant bien sa vie, installé une maison, etc. Il change complètement, il fait le choix de la difficulté, il gagne plus un sou, il quitte sa famille, il écrit des romans que plus personne n'apprécie dans un premier temps, comme Le Loup des Steppes, etc. Et voilà, ce sont des gens qui cherchent quelque chose, qui ne sont pas satisfaits.
Est-ce qu'ils trouvent ?
Je pense que S a trouvé quelque chose, oui. Quand on lit ses textes les plus intimes, je pense qu'il a... Et puis, la fin de sa vie atteste qu'il avait au moins acquis une certaine quiétude.
Oui, parce que c'est ça, en fait, quelque part, c'est la sérénité cherche à travers toute cette dualité, comme vous dites. Et vous cherchez aussi à rompre avec ce système, Philippe Ségur ?
Alors, pas dans le sens où les personnages en question veulent rompre. Et je ne suis pas parti en Albanie pour ces raisons-là,
pour ça,
je vous l'ai dit.
Tout à fait.
Mais en tout cas, oui, m'abstraire un petit peu, c'est-à-dire essayer de garder sa lucidité dans une société où on a parfois un peu l'impression d'être très très cadré dans les comportements admis, voire recommandés, voire fortement recommandés, et dans la pensée surtout.
Politiquement correct aussi.
Voilà. Donc, alors ça rejoint un petit peu mes préoccupations d'enseignant, hein, universitaire, puisque je m'intéresse aux questions politiques. Mais je pense que le discernement, la lucidité, ce ne sont pas des choses qui vont de soi. On peut se déclarer lucide, mais c'est un travail, quoi. C'est vraiment un travail.
Et vacances, donc vacances au singulier, hein, dans votre livre, dans le titre, Vacances au pays perdu, c'est la vacance dans le sens entre parenthèses, un peu, c'est cette vacuité, cette vacance de partir comme ça, se mettre un peu au vert, entre guillemets.
Dans ce livre, il y a deux choses. C'est d'abord, ce personnage du narrateur a un vide intérieur considérable qu'il cherche à combler. Et il part pour le combler, finalement, il ne va pas trouver ce qu'il cherche. Il va revenir, quand il va rentrer en France, il en sera au même point qu'au départ.
Même, voire peut-être même pire qu'avant.
Et peut-être pire, oui.
Il est encore plus dépassé par ce qu'il attend quand il revient, avec ses enfants qui n'ont pas changé, qui sont toujours aussi tyranniques, sa femme. Voilà. Il n'a pas changé non plus, rien n'a changé.
Et il rentre avec la certitude, cette fois, qu'il n'y a pas de solution.
Et oui.
Ce qui est un peu dur à avaler, sans doute, pour lui. Voilà. Et puis, alors ensuite, le deuxième aspect, la deuxième signification du mot vacances au singulier, c'est que ce voyage qui devait le rapporter l'aventure, une forme de régénération, tourne au cauchemar, c'est-à-dire une série de petites catastrophes, de calamités, et finalement ils tournent en rond, ces personnages.
Oui, voilà.
Il se passe rien du tout.
Il
se passe rien, sinon, sinon une série de voilà de mésaventures.
Rocambolesques, cocasses. Alors
j'espère.
Ah oui, oui.
Et ben, j'ai pas de pleurer non plus.
Ah non, mais moi j'ai beaucoup souri en lisant. Hein, mais c'est vrai que bon, voilà, c'est vrai que c'est cocasse. Des fois, c'est vraiment rocambolesque. On se dit, mais c'est inimaginable même pour nous.
Bah quand on cumule comme ça, qui n'a pas connu des vacances catastrophiques qui tournent mal ou vraiment les incidents s'enchaînent les uns après les autres. À ce point-là, peut-être.
Là,
pas.
C'est vraiment à l'extrême. Hein.
Oui, sans doute, mais
c'est poussé à l'extrême.
Ouais, ouais. Mais certaines choses ont un fondement réel.
Oui, tout à fait. Oui, il y a un mélange à la fois de réalité et de fiction. Oui. C'est un roman, donc c'est sûr, tout n'est pas vrai, mais beaucoup de choses sont réelles, comme par exemple le raki. Le raki,
c'est la boisson nationale albanaise, peut-être pas nationale, mais enfin, c'est très très répandu.
C'est
un alcool très violent à base de prunes, qui existe aussi en Grèce et en Turquie, mais je crois qu'il se fait là-bas, dans ces deux autres pays, il se fait à partir d'anis, il me semble. Donc c'est un alcool très 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 fort, et donc ces personnages ont vont éprouver assez durement
les effets du raki. Vous-même, vous en avez bu, Philippe Ségur?
Oui. Oui, j'en ai bu. Alors, il y a une scène, par exemple, dans ce livre, qui est tirée d'un... Je peux raconter, c'est une anecdote personnelle. Le personnage, à un moment donné, va perdre il boit du raki, puis au bout d'un moment, il s'aperçoit qu'il a perdu la sensibilité du pouce gauche.
Mm-hmm. Oui.
Il impute ce trouble de la sensibilité à l'alcool qu'il vient de boire, qui lui monte à la tête. Et il écrit aussitôt à son épouse pour lui dire que il s'est empoisonné, etc. Puisqu'il y a tout un jeu avec son, il envoie un SMS.
Avec son épouse, oui.
Il y a tout un jeu avec son épouse qu'il essaie d'affoler sur les conditions de son voyage pour se faire valoir à ses yeux, etc. Bon, il se trouve que quand j'ai bu du raki, j'ai trouvé ça extrêmement violent. Ça m'a rappelé les Tontons Flingueurs, une scène mythique de Signé Audiard dans les Tontons Flingueurs, dans la cuisine, pour ceux qui connaissent, mais
oui,
qui ne connaissent pas.
Fait.
J'ai écrit à mon épouse un message ou un SMS, la même chose. Je lui ai dit que je venais de boire un alcool très puissant et que j'aurais peut-être pas dû parce que alors c'est une réplique d'Audiard parce que certains deviennent aveugles après l'avoir consommé. Sauf que mon épouse étant donc à des centaines et des centaines de kilomètres de là.
L'a vraiment pris au pied de la
lettre. L'a pris au premier degré, a cru donc que j'avais un problème de santé sérieux. Mais entre-temps, moi, j'avais coupé mon téléphone portable. Donc, elle a passé la nuit à se ronger les sangs.
Oh là là.
Et le lendemain, donc, j'ai trouvé une avalanche de messages
de
très
SMS.
Inquiets. Et donc, je me suis dit que voilà, c'était la matière
vous êtes servi de
d'une
ça
scène
pour
dans le roman où j'exploite un petit peu. Mais ça n'a plus rien à voir finalement avec le point de départ, avec la réalité.
Et alors le birek, moi ça m'a beaucoup fait rire cette histoire de birek. Le birek, alors c'est un plat, on imagine que c'est un plat national là pour
oui.
le coup. Et alors ils vont jamais, les deux, Cricri et donc et le narrateur, ils n'ont jamais pu en manger.
Voilà, ça c'est vrai aussi, ça m'est arrivé également. C'est-à-dire
vous n'avez pas pu en manger non plus.
J'ai pas pu en manger. Le birek est annoncé partout, mais absolument partout. Bon, il y a beaucoup de cafés et partout. Hein, il se touche quasiment dans les rues, en tout cas dans la capitale. Mais il y en a vraiment beaucoup. Et le birek est annoncé sur toutes les devantures, toutes les vitrines. Et je n'ai pas pu y goûter une seule fois pour une raison que j'ignore. Hein.
Quand vous y alliez, on vous disait nos birek.
Il y en avait pas. Il y en avait pas. Je ne sais pas pourquoi. Bon, alors c'est un concours de circonstances, sans doute. Mais alors, ça aussi, j'exploitais à fond hein, le filon parce que je trouvais ça assez drôle.
Ah oui, c'est cocasse. Oui. On ne sait pas finalement ce que c'est que ce plat. Est-ce que c'est un plat, un dessert à base
Non, c'est un plat. Hein,
c'est un plat, mais à base de viande, de légumes. Enfin, on n'en sait pas.
Je ne saurais pas dire, hein, puisque
il faut y retourner. Il faudra retourner en Albanie à un moment où il y aura du birek.
Voilà.
Philippe Ségur. En tout cas, merci beaucoup d'être venu à Page nous parler donc de Vacances au pays perdu, édité chez Buchet-Chastel. Alors, d'autres projets de livres dans un tiroir ou en préparation, Philippe Ségur?
Oui, j'ai un projet de roman qui est en cours depuis plusieurs années maintenant, qui va encore me prendre quelques temps avant d'aboutir.
Bon, vous reviendrez nous en parler à Page
avec
sur Radio
plaisir.
Occitanie. Merci beaucoup Philippe Ségur. Nous, on se retrouve jeudi prochain avec Pascal Dessin pour son roman « Tu ne verras plus » édité au Rivage Noir. Bonne semaine à tous. Restez fidèles au programme de Radio Occitanie. Adiciat.
Poopy-doop.